L'heure du LEM a sonné. LEM comme l'émission quotidienne de Transistor, c'est du lundi au vendredi et aujourd'hui on remonte les générations et on vous annonce une prochaine chronique dans LEM.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission qui parcourt le Finistère, ses territoires et ses époques. Là, ce sera plutôt voyage dans le temps, quoique, d'une génération à l'autre en tout cas, puisqu'on s'intéresse à la généalogie. Nous avons la chance de compter parmi nos bénévoles une passionnée qui en plus se propose de transformer sa passion en radio, quelle chance. Vous l'avez peut-être déjà croisée parce que son travail, c'est aussi d'être conseillère numérique à l'ULAMIR de Crozon et elle est intervenue assez récemment à ce sujet sur notre antenne. Mais aujourd'hui donc, on reçoit Tiffaine Dorgère comme généalogiste distinguée et vous allez comprendre que la généalogie, c'est une entrée très riche pour faire de l'histoire locale. Bonjour Tiffaine.
Bonjour.
Tu es donc généalogiste amatrice mais sans doute très éclairée, on verra ça. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est la généalogie ?
La généalogie, c'est le fait d'essayer de retrouver ses ancêtres et de retrouver ce qu'ils ont fait. Ça peut être amateur ou ça peut être professionnel. Moi, en l'occurrence, comme tu l'as dit, je suis amatrice.
Ah oui, il y a des généalogistes professionnels, quoi.
Tout à fait.
Ils sont payés pour ça.
Oui, et qui travaillent souvent avec des notaires, d'ailleurs, ouais. Pour essayer de retrouver, par exemple, les héritages, etc.
Eh oui, bien sûr. Et donc, oui. Et que fait un généalogiste ? Donc, il fouille dans les papiers, c'est ça ?
Il fouille dans les papiers anciens pour essayer de retracer la vie de ses ancêtres ou la vie d'autres ancêtres. Hein. Ça peut être, on n'est pas obligé de faire sur sa propre famille. On peut aussi essayer de remonter un petit peu l'histoire d'un village, d'une maison. Ça peut être plein de choses très très variées. Souvent, on s'en tient à nos ancêtres directs, mais ça peut être quelque chose de tout autre. Voilà, on habite dans une nouvelle maison qui est en fait très ancienne. On veut savoir son histoire. C'est aussi de la généalogie.
Et alors, j'ai pas idée, est-ce que c'est très répandu ? Oui, je crois hein, qu'il y a beaucoup de généalogistes. Tu fais partie de l'association de généalogistes ?
Oui, je fais partie du cercle généalogique du Finistère, qui a de nombreux membres et qui fait un travail assez colossal, puisque eux... alors, il faut savoir que les archives départementales ont déjà numérisé beaucoup, beaucoup d'actes, actes de naissance, actes de décès, actes de mariage, et qu'au Finistère, en plus, d'autres choses ont été numérisées par les associations, qui permettent d'y avoir accès à toute heure sur le site internet de l'association et de ne pas avoir à fouiller page après page, mais il y a un moteur de recherche qui aide à aller beaucoup plus vite dans nos recherches.
Oui, j'imagine que c'est un loisir ou un métier qui a beaucoup changé, on va y revenir. Mais juste avant, je voulais savoir pourquoi toi, tu étais venue à la généalogie.
Moi, ça m'a pris très 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 tôt, en primaire déjà. Mon enseignante m'avait demandé, avait demandé à tous les enfants de la classe, évidemment, de tracer son arbre généalogique. Et c'est quelque chose qui m'a assez passionnée. J'ai pu poser pas mal de questions à mes grands-parents. Et avec le temps, vers 15 ans, j'ai commencé à frapper chez les personnes qui étaient connectées à la famille pour essayer d'avoir plus d'informations sur certains passages, parce que je n'avais pas encore toutes les infos, toutes les clés en main. Et j'ai été happée dedans, notamment par... celui que j'appelle tonton, mais qui n'est pas directement mon tonton, et qui m'a mis le pied à l'étrier, que je ne connaissais pas avant. J'ai frappé un jour chez lui, il m'a expliqué comment
il était dans le coin. Et...
oui, à
ouais.
Montréoc.
Ouais, ouais, c'est bien. Ouais.
Et il m'a... Et s'il m'écoute, coucou à lui. Et voilà.
Mais je crois que dans le Finistère, d'ailleurs, il y a particulièrement, il y a beaucoup de généalogistes amateurs ou amatrices parce que les gens sont dans le coin. Enfin, c'est ça aussi, non ?
C'est plus facile de le faire quand on est dans le coin. Parce que si jamais il y a un papier qui manque ou quoi que ce soit, on peut aller à la mairie et le demander. Si on est de la Drôme, c'est plus compliqué. Après, en France, de façon générale, il y a beaucoup de généalogistes. C'est une passion qui est très française.
Ah oui,
oui. D'accord. Dans les autres pays, ça se fait beaucoup moins.
Ah ouais.
En France, on est vraiment très amateur de tout ça et en plus, c'est une passion qui ne coûte pas très cher puisque tout est en ligne, qu'il n'y a pas besoin de payer pour avoir accès à des archives. À la limite, tout ce qu'on paye, ça va être la cotisation et une association.
Ah oui, pour avoir des tuyaux de méthodes, j'imagine, ou des choses comme ça.
Ou alors de la lecture, comme j'en ai amené.
Ah, oui, parce que là, devant Tiffaine, il y a quand même pas mal de gros bouquins et elle va nous expliquer ça tout à l'heure. Juste aussi pour savoir, toi, tu t'appelles Tiffaine Dorgère. Alors, je ne sais pas si c'est un nom spécialement breton. Non, c'est ça. Donc c'était là, de ce côté-là, t'as peut-être eu plus de mal.
C'est ça. Alors moi, j'ai une maman qui vient de la presqu'île de Crozon. Donc pour ce qui est du Finistère, c'est très très facile, comme je l'ai dit, de trouver des informations.
Côté maternel, c'est bon.
Presqu'île. Alors ouais. Là, on a plein de documents. C'est extrêmement argumenté. Mon papa, lui, vient de la Mayenne. Et la Mayenne, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Donc là, il faut aller frapper à certaines portes, surtout à des EHPAD. Mais on finit toujours par obtenir les informations qu'il nous faut.
Et tu voulais savoir, par exemple, est-ce que tu voulais savoir s'il y avait une particule à l'origine de ton nom ou pas ?
Oui.
Ouais, j'imagine qu'on cherche souvent des ancêtres nobles, non ?
Alors moi, c'était pas ma volonté de départ. Au contraire, c'était de mettre en lumière aussi les petites gens, les personnes de tous les jours. Voilà. Souvent, quand on a une famille comme la mienne qui est roturière, qui est de cultivateur.
Comme beaucoup de Français d'ailleurs.
Voilà, ouais. On va avoir acte de naissance, acte de décès, acte de mariage. La personne habite toujours au même endroit. C'était Crozon, voilà, tout était Crozon du côté de ma mère. Et ça nous apprend finalement peu de choses sur la personne. Elle était cultivateur, validité cultivateur.
Okay. C'est déjà beau d'avoir le métier, hein, c'est
Mais
ça.
C'est
hein.
tout ce qu'on a. Ouais. Et en fait, ça concerne pas mal de personnes de l'arbre. Et ça m'enquiquinait un petit peu. Donc j'ai pris le pli d'essayer de creuser chacun des individus, ce qui dure beaucoup plus longtemps que d'essayer de remonter, mais vraiment d'essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait dans les parages sur ces années-là. Est-ce qu'il y a eu des années de famine ? Comment ils les ont surmontées ? Est-ce qu'il y a eu des descendants ? Est-ce qu'ils ont eu des difficultés ? Est-ce qu'ils ont aussi des joies dans leur vie ? Et voilà, essayer de mettre du corps dans ses actes, dans ses papiers.
Et c'est là que le généalogiste se fait historien, en fait. Bah oui. Et donc juste parenthèse, il n'y avait pas de noble. Donc si, il y avait un noble, une particule, c'est ça un moment chez les Dorgères.
Alors chez les Dorgères, pas du tout. Ouais, pas du tout.
C'est marrant. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs comme nom ? Il y a une signification particulière ?
Non, pas plus que ça.
Ok. Et donc, alors là, on va rentrer un peu dans la méthodologie justement. Comment est-ce qu'on fait on part de rien, là, voilà, je veux faire la généalogie de ma famille. Comment je fais ?
D'abord, on va interroger les personnes qui sont encore en vie dans notre famille et qui sont plus âgées, qui vont pouvoir un peu nous aiguiller. Ah, si, je me rappelle que... Alors souvent, on a nos arrière-grands-parents, etc. On a un petit peu des informations, on sait où ils vivaient, en général. Mais on ne sait pas que, voilà, il y a la tante Suze qui faisait un excellent phare. Ah, mais attends, en fait, la tante Suze, je me souviens, ses enfants, ils habitent dans le sud. Je crois que j'ai leur adresse quelque part. Et si on a de la chance comme moi, on a une grand-mère qui a une mémoire d'éléphant et qui peut nous raconter plein de choses. Et des fois, ça se passe dans les petits détails aussi. Quand j'étais petite, elle me racontait beaucoup l'histoire de quand elle allait à l'école, donc à Crozon, où... tout ce genre de comment elle a vécu, elle, la guerre en tant qu'enfant, qui n'est pas la même guerre aussi qu'en tant qu'adulte. Enfin, il y a énormément de choses. Et en fait, le plus dur, c'est ça. C'est de faire un tri et d'essayer de se dire, bon, je vais me focaliser sur cet axe-là de cette partie.
On choisit un thème, quoi.
Mm-hmm. C'est ça. On va essayer de rester sur un thème au moins une partie de temps, parce que sinon, il y a trop à faire et on ne fait plus rien.
Ouais. Bah, si, on fait de l'histoire, tous azimuts, quoi. Et donc, pour remonter, alors, il y a un moment où ça doit être quand même devenir... Alors, on va dans les mairies, c'est ça, demander des actes, ou on peut le demander par téléphone, enfin, le
non,
numérique...
Tout est sur Internet.
Ouais, d'accord.
Tout est sur Internet au-delà de 100 ans.
Ah oui, quand même.
Parce que, évidemment, on protège aussi la vie de ceux qui sont encore vivants. Et tout le monde a le droit... de ne pas avoir sa date de naissance qui
ouverte à tout vent.
Exactement.
ouais, je comprends. D'accord. Donc, tout est en ligne.
Tout est en ligne au niveau des actes de naissance, mariage, décès, les tables décennales. Donc les tables
décennales,
qu'est-ce que c'est ? C'est des tables qui répertorient sur 10 ans, une fourchette de 10 ans, dans une commune, toutes les naissances, les décès et les mariages en fait, qui a eu lieu. C'est-à-dire qu'on a juste l'information principale, à quelle date ça s'est passé, entre qui.
Voilà. Les noms et les dates de l'événement.
Et les dates, c'est tout ce que l'on
a. Et ça, ça aide déjà.
Ah, ça aide énormément, puisque au lieu de lire les dix registres manuscrits, on va en lire un seul, qui est beaucoup plus concis, et on va savoir où exactement chercher grâce à la date.
Mais toutes les communes ont déjà leur table décennale en ligne, enfin, c'est obligatoire ?
C'est obligatoire.
Et il y a des moteurs de recherche efficaces pour... les travailler.
Chaque archive départementale a son site internet, ce qui fait que c'est une petite particularité si jamais on a besoin d'aller dans un autre département. Mais elles sont toutes en ligne sur les archives départementales, effectivement.
Bon, ça c'est pour les actes de naissance, enfin les actes civils. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait eu d'incendie quand même dans les communes concernées, hein, c'est ça. Hein.
C'est ça, ouais. Mais c'est quand même relativement rare.
Oui, donc ça c'est facile à trouver, on n'a pas besoin en fait d'aller chez Généanet, enfin tous ces sites-là, internet, tous ces plus ou moins payants.
Voilà, on n'a pas besoin. Après, Généanet, moi je suis aussi dessus, parce que je trouve ça sympa de pouvoir faire de façon collaborative de la généalogie. Par contre, il faut toujours faire très attention et vérifier par soi-même toutes les informations qu'on peut voir dessus, parce qu'il y a aussi beaucoup d'informations qui sont complètement erronées.
Ah bon ?
Oui.
Et pourquoi ? Comment ça se fait ? C'est les gens qui écrivent n'importe quoi ou...
Non, mais ils n'en font pas exprès. En fait, des fois, quand tu enregistres de la masse comme ça d'informations, il y a des choses, il y a des coquilles.
Des erreurs qui se propagent. Et alors, quand on a épuisé ces registres d'état civil, ces informations pratiques, faciles à obtenir, comment est-ce qu'on peut trouver d'autres informations généalogiques, justement ?
Eh bien, on va s'intéresser à la commune, on va s'intéresser à ce qui a déjà été écrit sur le territoire. Et on va s'intéresser à tout ce qui est militaire aussi, par exemple. Le registre matricule, notamment, qui va retracer toute la carrière militaire. Ce qu'on oublie aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus le service civique, c'est qu'à l'époque, enfin, il y a plus de 100 ans, tous les hommes étaient enregistrés lors de leurs 20 ans dans une classe matricule.
Ben,
et
là,
commencer leur registre matricule.
Il y a quand même un recensement maintenant, là, des enfants à partir de 16 ans. Ils n'ont pas de matricule, peut-être.
Ouais. Alors, vu que c'est récent, je ne sais pas.
Oui, d'accord, j'enlèverai ça.
C'est vraiment la généalogie. Ouais.
Donc, ils étaient tous les hommes. Pour les hommes, c'était relativement facile
d'essayer de retracer au moins leur parcours. Et ce qui est bien, c'est que sur le registre matricule, on a toute leur domiciliation qu'ils ont eue au cours de leur vie. Donc, on sait dans quelle commune ils ont habité, à quelle adresse. Et par exemple, s'ils avaient eu une maladie ou un accident à un moment donné qui était digne d'être écrit dedans. Et finalement, les hommes, on a beaucoup d'infos. Mais comme d'habitude, le problème, c'est pour les femmes.
Eh bien, comme d'habitude.
Les femmes, comme d'habitude, elles sont complètement invisibilisées dans la généalogie aussi.
Et est-ce qu'on peut alors s'adresser à d'autres types d'archives ? Enfin, je ne sais pas, je pense pas. Justement, tu parlais des accidents ou des maladies. Est-ce qu'on peut aller demander aux hôpitaux
Non, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire parce qu'ils les détruisent au bout d'un certain temps, parce que voilà, secret médical. Par contre, on peut avoir accès à tout ce qui est héritage, enfin je veux dire les papiers d'héritage, les papiers de...
J'ai plus le nom. Les actes notariés.
Les actes notariés, tout à fait.
Ça, là, c'est gardé longtemps ?
Oui, on les a encore. Ils sont dans les archives, là, il faut se rendre en salle, mais il y a tout ce qu'il faut à ce niveau-là.
Bon, très bien. Dans toutes les communes, enfin dans tous les départements.
Bon. Dans tous les départements.
Et là, ce n'est pas en ligne ?
Non,
ah oui.
Ce n'est pas en ligne. Il faut juste être adhérent aux archives, mais en France, c'est gratuit. Donc, on fait sa petite carte, on va en salle d'archives. On prend un crayon à papier et pas un crayon bic, parce que les archives sont extrêmement fragiles. On écrit sur une petite feuille toutes les informations dont on a besoin. En général, quand on y va, on regarde sur Internet quelle est la cote qui nous intéresse, comme pour un livre en bibliothèque, et on demande à l'archiviste d'aller nous chercher ce document.
D'accord, les actes notariés, d'autres pistes auxquelles on n'aurait pas pensé.
Après, ça va dépendre de l'histoire de la personne que l'on a en face. Par exemple, moi, mon arrière-grand-père est un enfant de la DAS. Donc j'ai dû aller demander le dossier de la DAS aux archives du Finistère, et chose à laquelle je ne m'attendais pas, les archives sont extrêmement bien conservées au Finistère.
Oui, mais si on les a reçues dans cette émission.
Donc j'ai tout le dossier de DAS de mon grand-père, avec à chaque fois qu'il a demandé quelque chose à son tuteur, etc., tout était noté, y compris quand il a voulu un manteau à 16 ans pour s'engager dans l'armée, et qu'il ne voulait pas le manteau qui était mis de base, parce que ça se voyait sinon qu'il n'avait pas de parents.
Ah, bien sûr.
Donc il a demandé à avoir un manteau un petit peu plus
costume.
Et ça a été accepté. Et tout ça, c'est marqué.
Donc on peut en effet s'y perdre. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, particulièrement dans ces recherches ?
Moi, j'ai l'impression de lire un roman, mais un roman qui a eu lieu. Et je suis aussi, actrice de tout ça. Parce que c'est moi qui vais chercher. Je cherche toutes les pistes, je creuse. Et des fois, je vais mettre des heures et des heures à trouver le document ou l'information qu'il me faut. Et quand je l'ai, Ça ouvre des portes vers des petites histoires, des grandes histoires qu'on n'aurait jamais imaginées. Et surtout, ces personnes, en fait, leurs histoires ne seront jamais mises sur le devant de la scène si des personnes comme des généalogistes amateurs ne s'y intéressent pas. Parce que c'est beaucoup, ça demande beaucoup plus d'efforts que d'aller chercher sur des personnes, par exemple, nobles, qui ont déjà eu leur histoire déjà racontée, etc.
Oui, c'est ça. Et d'où l'intérêt d'être, j'imagine, dans un cercle de généalogistes, c'est ça, non ? Est-ce que ça peut arriver des collaborations entre généalogistes ?
Ça peut arriver, mais moi je suis très solitaire comme généalogiste. Donc je suis adhérente au cercle de généalogie parce que je soutiens l'action. Je la trouve très intéressante et très importante. Après moi, de toute façon, je ne vais jamais au rassemblement de généalogie de Crozon parce que c'est en pleine semaine et que je travaille.
Mais c'est souvent des retraités peut-être, les généalogistes.
C'est souvent des retraités, mais ça a tendance à se rajeunir.
Ah oui,
ah oui ça
bon, je précise que Tiffaine est très jeune. Vous ne la voyez pas, mais vous l'entendez peut-être. Ouais, d'accord, ça se rajeunit quand même.
Ça se rajeunit. Ouais. Après, en plus, moi, je n'aime pas forcément passer par un moteur de recherche pour marquer le nom et le prénom de la personne et trouver juste les documents qui m'intéressent. Je préfère aller directement dans les archives, lire ce qui est manuscrit et regarder les actes qu'il y a autour. On ne sait jamais. La personne peut avoir eu un jumeau à la naissance.
Ah oui.
Et le fait d'avoir les actes à côté, ça permet aussi d'avoir, comment dire...
On n'aurait pas ça dans les archives en ligne, enfin dans les actes en ligne, quoi.
On les a dans les actes en ligne,
ouais.
Parce que moi je passe par les actes en ligne, mais on ne les a pas forcément sur le site de l'association, qui elle va vraiment demander un nom, un prénom, pour avoir accès au document qui est demandé. Et des fois, l'information ne se trouve pas dans le document que l'on pense. Et du coup, chercher et mettre des heures et des heures à trouver, c'est très très chronophage, mais ça nous apprend beaucoup plus de choses.
Ouais. Oui, puis il y a le plaisir du document concret. Enfin, c'est ça.
Chasse au trésor.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. donc ça ça te plaît. Puis t'as j'imagine un peu une mentalité d'historienne, on pourrait dire ça. Enfin, t'aimes bien fouiller, t'aimes bien creuser, parce que voilà, faut aimer.
C'est ça.
Ouais, ouais. Et donc tu en es arrivé à t'intéresser à d'autres gens que de ta famille.
Oui,
c'est ça.
Complètement, ouais.
Par exemple, c'est qui la première personne dont tu as eu envie de raconter l'histoire?
Alors moi, ça va être très lié au territoire, parce que mes ancêtres n'ont pas bougé, ou très très peu.
C'est pratique.
C'est pratique, c'est un peu redondant si jamais on s'en tient au fait purement civil.
Oui, c'est vrai.
Donc moi, ça va être très très lié au territoire, et là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est... La première histoire qui m'a vraiment happée, c'est celle de mon arrière-grand-père, donc enfant de la DAS, qui a été récupérée par une sage-femme, la sage-femme qui avait accouché sa mère à Brest.
Elle l'a adoptée, entre guillemets, non ?
Non, elle ne l'a pas adoptée, mais elle a fait... en fait, elle l'a amenée à Telgruc. Elle était sur Brest, elle travaillait sur Brest, mais elle habitait Telgruc. Et en fait, elle l'a ramenée un soir avec elle, on était en 1905. Donc 1905, elle a ramené l'enfant avec elle... Et l'a donnée à une famille de fermiers qui habitait à côté. Donc après, ça a été régularisé, tout ça. Mais ça l'a empêché de passer par la case orphelinat, etc., etc.
Oui, ce qui n'est pas plus mal sur le plan moral.
C'était un bébé.
Oui, c'est ça.
Et en fait, en allant voir les recensements, parce qu'on n'a pas parlé non plus des recensements.
Ah mais non, on n'en a pas parlé. Ouais.
En allant voir les recensements, je me suis rendu compte qu'il y avait une vingtaine d'enfants à cette époque qui étaient en nourrice à Telgruc. Beaucoup plus que dans n'importe quelle commune des environs. Et il se trouve que cette personne, qui s'appelait Elisabeth Danielou, a fait ça un certain nombre de fois.
La sage-femme.
Du
trafic de bébés, si on veut. Enfin, en fait, ça partait bien sûr d'une bonne intention.
Il y avait beaucoup, très bonne intention.
Voilà, et beaucoup de filles mères qui ne peuvent pas garder l'enfant. Plutôt que de les mettre à l'orphelinat, elle connaît des gens qui veulent des enfants. Et puis hop, quoi.
C'est exactement ça.
Ouais. Ah ouais, et donc Telgruc...
Elle leur a donné un avenir quelque part aussi.
Mais tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'on sait ? Enfin, du coup, tu t'es penchée sur tous les enfants, les 20 enfants de Telgruc, non ?
Ouais, je suis en train de me creuser sur chacun des enfants de Telgruc, voir le lien qu'il peut y avoir entre eux, etc. Parce que, autre spécificité, mon arrière-grand-père est né en fait d'une prostituée. Et du coup, je me demande si ces enfants viennent tous de prostituées ou pas. Quels sont leurs parcours ? En fait, pourquoi ils étaient là à ce moment-là ? Pourquoi ils ont été enlevés à leur mère ? Voilà.
Très bien, c'est une histoire qui n'est pas tout à fait gay, mais pas trop triste non plus, on va dire. D'autres, donc, après, d'autres histoires, de, peut-être de personnages célèbres, ou je ne sais pas, non
Je vis de les personnages célèbres, à part, à la limite, quand... C'était nul comme ton nom.
Oui. Si, non. Ouais, donc les personnages célèbres, ça t'intéresse moins, on va dire, c'est ça
Alors, je suis moins intéressée par les personnages célèbres, effectivement. Je préfère essayer de mettre en lumière des personnes qui seront moins mis en avant dans la société.
Tu vas pas jusqu'à faire une étude sociologique, enfin de, je sais pas, d'un territoire justement pour voir un peu.
Non, je vais pas jusque là. Mais des fois, je vais par exemple aller sur un document connexe, par exemple les contes d'Anatole Le Braz sur la mort. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu fasciné, les contes, les légendes, ça dit beaucoup d'un territoire. Et il y a une de ces histoires qui a été enregistrée, qui a été écrite lorsqu'il était à Dinéole. Et j'ai essayé de remonter un petit peu la piste parce que Anatole Le Braz, non seulement c'est quelqu'un qui écrivait des contes et des légendes, mais c'est aussi quelqu'un qui prenait énormément de notes. Il avait, en tout, on a recensé plus d'une quarantaine de carnets qui sont à Quimper aujourd'hui.
Accessibles.
Et qui sont en plus numérisés.
Oh, formidable, bah oui.
Par contre, il parlait à moitié français et à moitié breton, et comme je ne parle pas breton.
Ah, oui.
Ça pose problème.
Bah oui, non, mais c'est vrai, ça peut être un problème d'ailleurs aussi, dans les archives lointaines.
Voilà.
D'autres, oui, d'accord.
C'est ça, oui, oui. Mais alors, la langue de la Bretagne au niveau administratif, elle était française.
Depuis longtemps, oui.
Très très longtemps.
Ouais,
donc bon. Ça ne pose pas problème à ce niveau-là.
Et alors, qu'est-ce que tu as découvert pour l'instant chez Anatole Le Braz ?
Chez Anatole Le Braz, donc, il a recueilli cette histoire d'un mendiant qui était aussi... il était souffleur de bignou.
Il était joueur de bignou, oui.
Et là, l'idée, c'est en fait de recenser, d'aller dans les recensements, encore eux. Finalement, c'est très utile. Et de voir toutes les personnes qui ont plus de 60 ans à cette époque-là, parce qu'ils parlent vraiment d'un vieillard. ça avait... Oula, ouais. Oula, oula.
Si,
oula.
Si. Bah si, 60 ans à l'époque,
mais à l'époque
c'était
à l'époque,
être vieux. Ouais, ouais, tout à fait.
Rare d'arriver
pas,
à cet âge-là.
Pas de problème. Ouais. Ouais. Et donc, ils parlent de... Donc les recensements sont quand même pas anonymisés. Enfin, il y a les noms.
Non,
dans les...
non, non, ah, tout est dispo. Il y a les noms, le prénom, la commune d'origine, la date de naissance. Alors, l'année de naissance, en général, les gens du bas peuple ne connaissaient pas forcément leur date exacte de naissance.
Mm-hmm.
Même leur année, oui. Des fois, c'était compliqué.
Oui.
Donc, il faut regarder d'une année sur l'autre. Voilà. Et les recensements ont été faits tous les 5 ans.
Bon,
dans les communes.
Comme un peu toujours. Enfin, non, maintenant, ça a un peu changé, la méthode. Mais bon, oui, oui.
Mais il y a un peu de ça. Et puis, c'était trié par lieu-dit, par hameau.
Ah oui, en plus.
Donc, on a le nom des hameaux qui,
ah oui.
Et qui permet de retrouver d'un recensement sur l'autre... une famille, parce qu'en général, les familles restaient dans le même hameau pendant très longtemps.
Donc, c'est assez précis.
Mmh. Oui, oui, oui. Et puis, il y a le lien de parenté entre les différents membres de la famille. Il y a le nom de l'employeur, si jamais il y avait un employeur.
Donc, tu as découvert des trucs ?
J'ai découvert
des secrets. Bon, et alors tu vas nous proposer justement une chronique. Enfin, tu vas mettre, c'est ça ? Tu vas mettre en avant quelques questions
Bah, moi, j'aimerais beaucoup vous présenter le destin de ces personnes ordinaires au destin extraordinaire que vous ne pourrez pas connaître autrement qu'à travers cette chronique et qui mettrait un petit peu en lumière aussi le travail que je fais et que tous les généalogistes amateurs font. Voilà, peut-être que ça deviendra aussi pour vous une passion ou au moins. Un centre d'intérêt, voilà.
Et alors, un petit mot des livres que tu as devant toi.
Ouais.
Pourquoi tu les as amenés ? Qu'est-ce que c'est ?
Ben voilà, en fait, souvent, Internet, c'est bien, on y trouve beaucoup de choses. Mais dans les livres, on va trouver du vivant. Du vivant, des histoires qui sont assez intéressantes à voir parce qu'on voit comment les personnes vivaient à cette époque-là. Ça peut être des autobiographies. Donc là, j'ai un vieux livre de Jean Donval qui était dans le grenier de mes grands-parents. Donc c'est quelqu'un qui habitait à côté de l'Esnevin. Et j'ai une partie de la famille qui était là-bas. Donc on apprend pas mal de choses sur ce qui avait été mis en place, notamment pour les indigents à côté de l'Esnevin. Surtout l'église qui mettait ça en place.
Et oui, évidemment.
Beaucoup de choses.
C'est son rôle. Ouais.
Là, j'ai un exemplaire du Presqu'ilien. Parce que je travaille
journal
pour l'Avenir, on les a tous, c'est nous qui les éditions à l'époque.
D'accord.
Mais voilà, là, on en a un sur la vie quotidienne en Presqu'île lors de la Libération. Donc on peut apprendre pas mal à chaque fois. Voilà, c'est d'autres portes d'entrée vers ces histoires-là. Là, on a un exemplaire du magazine Breton sur les vieux métiers insolites de la Bretagne. Parce que des fois, on tombe sur des métiers.
Moi, c'est ça que j'aime bien. J'ai réussi à avoir les métiers de mes ancêtres et je trouvais ça pas mal. Ouais.
Ah, oui.
Ouais. Mais oui, parce que en fait, justement, c'est comme ça que j'ai découvert que finalement, il y en avait quasiment pas qui étaient paysans. Voilà, ils étaient tous plutôt petits artisans, petits commerçants.
Mais le jour où on tombe sur un vendeur de petites cuillères,
c'est rigolo.
Ça pose question, évidemment. Comment vivait cette personne? Comment on peut arriver à vivre du marchandage de petites cuillères? C'est toujours quelque chose qui nous intrigue.
Ah oui, en effet, ouais.
Voilà, là, récemment, j'ai dû demander à la Société archéologique du Finistère de me passer un exemplaire de 96, parce que je m'intéresse beaucoup aussi aux naufrages qui ont lieu sur la presqu'île, notamment. Il y a eu toute une société qui s'est créée autour de ces naufrages qui ont lieu à travers les siècles, et des hameaux entiers ont vécu de ces larcins qui ont été faits sur les épaves.
Les naufrageurs, d'accord.
Voilà.
Ok.
Donc voilà, on a aussi Lavelle Gornog
qui est la revue d'histoire de la presqu'île de Crozon, on va dire. Hein.
Voilà. Qui est très documentée par les archives que l'on a. Donc à chaque fois, l'important c'est ça aussi, hein. C'est de partir de sources qui soient très très fiables.
Ben oui, bien sûr.
Voilà, on n'invente rien, on part de quelque chose qui est sourcé.
Voilà, source pure.
Source pure.
Sachant que l'officier d'état civil peut quand même faire des erreurs aussi, même si c'est une source de base.
Ça arrive. Des fois, on voit l'écriture qui est un peu plus tremblante et tout. On se demande s'il n'a pas bu un petit peu avant d'écrire, mais c'est rigolo. Et là, j'ai un livre sur tout ce qui est bref de la presse. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que la presse ancienne est gratuitement en ligne aussi sur Internet, sur Gallica, par exemple.
Bien sûr.
Qui a tout numérisé, qui a fait un travail extraordinaire à ce niveau-là aussi.
On a moins accès aux vieilles émissions de radio, mais bon, c'est dommage. Mais la nôtre sera sans doute... on va essayer de la conserver très longtemps pour qu'elle aide les généalogistes futurs. Et donc, on vous en reparlera quand elle sera prête, cette chronique. Merci beaucoup, Tiphaine.
Merci à toi.
Et la chronique généalogique du Finistère de Tiphaine Dorgère, eh bien, vous l'entendrez dans l'EM du mercredi à partir de janvier. Merci à toutes et tous de votre écoute. C'est ainsi que se termine ce l'EM.